Europe 1 Culture Média.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver pour Culture Média au menu. Média et culture au sens large. Tous les médias, toutes les formes de culture, un lundi comme le vendredi, c'est toujours le programme. Aujourd'hui, par exemple, on va parler musique avec Tamino et jeux vidéo. Il y aura évidemment Bruno Donnet pour ses télescopages, Jean-Luc Lemoyne et sa session de rattrapage. Dans quelques instants, le journal des médias et les audiences télé d'hier soir et du week-end avec Luce Bernard. Notre infomédia, une semaine seulement après l'échec de sa fusion avec M6, qui était pourtant annoncée comme la fusion du siècle, TF1 change de numéro 1. Vendredi a été annoncé l'arrivée prochaine d'un nouveau PDG, Rodolphe Belmer, ancien numéro 2 de Canal+. Le scoop était signé Olivia Hubertali, journaliste spécialiste média au point. C'est lui qui sera avec nous en direct. Nos invités ensuite, le romancier Jean-Christophe Granger, auteur de best-sellers. Ses créations reviennent sur France 2 tous les lundis avec la série Les Rivières Pourpres, c'est la saison 4, toujours avec le fameux commissaire Niemans, incarné par Olivier Marchal. Et puis, enfin, les comédiens dans la deuxième heure, Ahmed Silla et Bertrand Huskla. Oui, Bertrand Huskla, le gars de Brut, la parodie de Brut, pour jumeaux, mais pas trop. Film avec un pitch très efficace. L'un est noir, l'autre est blanc. Et pourtant, ce sont deux jumeaux séparés à la naissance avec le même ADN. Oui, eh bien cela arrive. Il y a une chance sur 1 million que cela se produise. Et si vous estimez que c'est très peu, dites-vous que gagner le gros lot au loto, c'est seulement une chance sur 19 millions. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Vous avez touché le gros lot. Culture Média, c'est parti.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
C'était pas dans le texte, j'ai improvisé. Bonjour Luce Bernard.
Oh, pas mal, pas mal. Bonjour, bonjour tout le monde.
Au sommaire de votre journal des médias, Louise.
Le lancement de la nouvelle émission de Léa Salamé sur France 2 samedi soir a-t-elle fonctionné? Eh bien, je vous donne l'audience dans un instant. Et puis dans le journal, qui pour racheter M6, au moins 3 offres déposées, offre en solo, duo et trio. Laurent Ruquier, lui, rebondit sur une chaîne privée. Et puis France Télévisions va proposer une météo de l'électricité. Qu'est-ce que c'est? Je vous explique tout ça dans un instant. Et puis on terminera avec des petites infos séries et sport.
Mais d'abord, les audiences qu'ont regardées les Français hier soir.
Sans surprise, ils ont regardé le foot sur TF1. La défaite de la France face au Danemark. 5 910 000 téléspectateurs hier soir. Très bon score. 25,6% de part d'audience. Deuxième, c'est France 3 avec sa série Les Enquêtes de Véra qui ne faiblit pas hein, malgré le foot. 3 380 000 téléspectateurs hier soir encore. C'est toujours autant semaine après semaine. 14,9% de part d'audience. Et puis troisième, France 2 avec son film Sage-femme. 2 830 000 téléspectateurs. 13,4% de part d'audience.
Donc le foot n'a pas faibli malgré le fait
malgré
que Canal Plus ne diffuse pas les chaînes de TF1.
Bon score.
Et ce week-end en résumé, Louise
Au niveau des primes, rien de surprenant. C'est encore le service public qui a remporté la bataille des audiences avec le succès d'Astrid et Raphaël une fois encore vendredi soir. La série de France 2 a écrasé encore une fois la concurrence. Samedi soir, c'était le polar de France 3, Les Mystères de la Chorale qui a attiré les foules. C'est donc plus compliqué pour TF1. Danse avec les stars est décidément en petite forme cette saison et en baisse par rapport à la semaine dernière. Et puis l'émission The Voice Kids, elle perd 500 000 de téléspectateurs par rapport à la semaine précédente. TF1 qui l'a subi, on peut le dire, la coupure de sa diffusion par Canal+. On estime que c'est une baisse de 8 à 10%. Enfin, TF1 estime ces chiffres. Voilà pour les primes. Mais le score qu'il fallait observer ce week-end, c'était celui du nouveau talk show de France 2 sur la mythique case de deuxième partie de soirée du samedi soir. Celle de Laurent Ruquier et Thierry Ardisson avant lui. Alors, quel score pour la nouvelle émission de Léa Salamé? Quelle époque? Très bon, 1 100 000 téléspectateurs en moyenne pour une émission qui s'est terminée à 1h40. Ah oui. C'est vraiment bien. Et il faudra voir évidemment dans le temps, hein, passer l'effet de nouveauté si les téléspectateurs vont revenir.
Europe 1, le journal des médias.
À la une de ce journal, le rachat du groupe M6 se précise.
Au moins 3 dossiers ont été déposés, 3 propositions de reprise d'après Le Point et l'AFP. Alors quelles sont-elles? Une par un duo, le français Xavier Niel allié avec Media for Europe. C'est le groupe de télévision fondé par l'italien Silvio Berlusconi. Une autre par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, déjà propriétaire de plusieurs médias en France. Et une dernière offre, la plus conséquente selon Le Point, celle de Stéphane Courby, géant français de l'audiovisuel, allié avec Rodolphe Saadé, qui va bientôt reprendre la Provence. Je vous ai régulièrement parlé d'ailleurs de cette bataille pour reprendre la Provence entre Xavier Niel et lui. Et puis, troisième offre de cette reprise, Marc Ladré de la Charrière, propriétaire notamment de Webédia, qui possède plusieurs médias en ligne, notamment Allociné. Alors, d'après l'AFP, Bertelsmann n'est pas pressé de vendre. Cela se fera uniquement si les offres sont suffisamment intéressantes. Le Point avance qu'elles sont toutes au-dessus de 19,20 € par titre. M6, soit une valorisation de la participation de Bertelsmann dans le groupe M6 à plus de 1,1 milliard d'euros. Et si elle se fait, cette vente devra être rapide. Je vous le rappelle, le renouvellement de l'autorisation de diffusion doit avoir lieu en mai prochain, date à partir de laquelle l'actionnaire ne pourra plus changer pendant 5 ans, comme le prévoit la loi.
Le Point qui donne ces infos, c'est via leur journaliste média Olivier Hubertali, qui sera notre invité dans un instant. Louise, vous parliez des audiences du nouveau talk show de France 2 qui remplace ceux de Laurent Ruquier le samedi soir en deuxième partie de soirée. L'animateur Laurent Ruquier donc rebondit sur une autre chaîne, Paris Première.
Oui, il vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle émission, Club Première. C'est une émission hebdomadaire, elle aussi, en deuxième partie de soirée aussi. Mais le sera-t-elle le samedi soir? On ne sait pas encore. Non, on ne sait pas.
Ils
le genre de diffusion,
faire.
Peut-être. En même temps, ce n'est pas le même public. Paris Première, c'est une chaîne payante. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que ce sera un talk show culturel tourné dans les conditions du direct dans un restaurant à Paris. Un lieu décrit par la chaîne comme convivial, où entre l'estrade, le bar et l'escalier, Laurent Ruquier sera amené à se déplacer. Avec autour de lui deux chroniqueurs, Gaël Tchakaloff et François Renucci. Et puis des invités venus promouvoir du théâtre, de la littérature, du cinéma. Plusieurs humoristes aussi, et puis des inconnus. C'est-à-dire que ce seront des personnes recrutées dans une librairie ou une avant-première pour venir donner leur avis sur le plateau. À noter que Laurent Ruquier, lui, ne quitte pas le service public pour autant. Il va bien continuer d'animer des primes sur France 2. Il a eu l'autorisation de Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, pour faire les deux.
France Télévisions qui vient d'annoncer une nouveauté pour cet hiver, une météo de l'électricité. Racontez-nous.
Ça veut dire que vous pourrez voir où en est la consommation d'électricité en France en temps réel. Le groupe public vient de signer un partenariat pour diffuser le système EcoWatt, ça veut dire qu'à l'antenne, vous verrez des pictogrammes de couleurs différentes qui s'afficheront lors des programmes d'information ou de bulletins météo-climat. Trois pictogrammes, vert pour normal, orange pour tendu et rouge pour très tendu, c'est-à-dire quand des coupures d'électricité sont possibles si on n'agit pas. L'idée, c'est d'inciter les téléspectateurs à limiter leur consommation d'électricité quand c'est nécessaire.
Quand même pas éteindre la télé.
Voilà, j'étais sûre que vous alliez me dire ça.
Oui.
Non, parce que... Alors, Delphine Arnaud a précisé que regarder la télé, ça n'est pas ce qui est le plus énergivore. C'est plutôt pour limiter l'utilisation d'appareils comme des fours, des machines à laver, sèche-linge, plaques de cuisson qui sont donc plus énergivores. Cette météo de l'électricité, en fait, c'est une des mesures annoncées par France Télévisions. Le groupe public va aussi créer une équipe climat au sein de la rédaction. Ce sont des journalistes spécialisés et puis il va organiser des délocalisations du journal de 13h, c'est-à-dire qu'il sera présenté depuis des lieux touchés par la crise climatique.
On continue ce journal, Louise, avec deux petites infos séries.
On connaît désormais la date de mise en ligne de la saison 5 de The Crown sur Netflix. Ce sera le 9 novembre. Cette nouvelle saison se concentrera sur les années 90, notamment le divorce de Charles et Diana. La saison ira jusqu'en 97, année de la mort de Lady Di. Et puis toujours sur Netflix, la série You, c'est une des plus populaires de la plateforme. Elle aura le droit à une saison 4 mise en ligne en deux parties. D'abord le 10 février et puis le 2 mars.
Et puis on termine ce journal avec une info sport. Le père de Kylian Mbappé va être consultant pendant la Coupe du Monde de football.
Oui, mais alors ne le cherchez pas dans les médias français. Il n'y commentera pas les performances de son fils. Non, c'est pour une chaîne togolaise que Wilfried Mbappé sera consultant, News World Sport. En fait, c'est la seule chaîne qui possède les droits de diffusion de la Coupe du Monde en français dans les pays francophones d'Afrique subsaharienne. Chaîne qui sera donc dédiée de 8h à minuit à la Coupe du Monde, intégralement, 100%. Et vous savez qui est responsable des contenus?
Dites, non.
C'est Christian Jean-Pierre, qui est l'ancien journaliste commentateur qui avait été évincé de TF1 en 2020.
Merci Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, nous en parlions, notre info média du jour, la nomination de Rosol Belmer à la tête de TF1, les suites du conflit TF1-Canal+. Après l'abandon de la fusion TF1-M6, nous serons avec le journaliste Olivier Hubertali. Quels sont les grands changements qui secouent le paysage audiovisuel français? À tout de suite sur Europe 1.
9h-11h
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
La télévision française ne sera plus jamais comme avant. Après des semaines, voire des mois à attendre et à tergiverser, tout s'accélère. Une semaine seulement après l'échec de sa fusion avec M6, annoncée pourtant comme la fusion du siècle, TF1 change de braquet et de numéro 1. Vendredi matin a été annoncée l'arrivée prochaine d'un nouveau PDG, Rodolphe Belmer, ancien numéro 2 de Canal+, en lieu et place de Gilles Pélisson qui va prendre de nouvelles fonctions au sein du groupe Bouygues. L'information, le scoop, a été révélé vendredi matin par Olivier Hubertali, journaliste spécialiste média au Point, et il est avec nous en direct. Bonjour Olivier Hubertali.
Bonjour Philippe.
Tout s'accélère, disais-je, parce qu'M6 est toujours à vendre et plusieurs groupes sont sur les rangs. Louise Bernard en a parlé. Avec une surenchère à coup de cash, on annonce une offre, en plutôt vous annoncez une offre de plus d'1,2 milliard. Et c'est pour cette raison, parce que c'est vous qui l'annoncez, qu'on souhaitait être avec vous ce matin. On va d'abord commencer par l'information principale, l'arrivée annoncée de Rodolphe Belmer pour prendre les rênes du groupe TF1. Avant que vous nous expliquiez pour quelles raisons, d'abord, qui est-il ? Qui est Rodolphe Belmer ?
Alors, Rodolphe Belmer, c'est quelqu'un qui est un patron qui gravite quand même depuis une vingtaine d'années, pratiquement 30 années, qui a fait ses gammes notamment à McKinsey, un cabinet de conseil et d'audit, et puis qui est arrivé à Canal+, qui a gravi petit à petit les échelons, directeur de la distribution, et puis il a été directeur général pendant de nombreuses années, jusqu'à temps que, juste au moment où Vincent Bolloré, à la moment de la prise de contrôle de Canal+, l'a viré et il a rebondi à l'opérateur de satellite Eutelsat, et puis il était dernièrement patron, directeur général du groupe informatique Atos. Donc ça veut dire c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'expérience dans la direction d'entreprise, et c'est lui qui vient maintenant à TF1. Il était sans poste depuis quelques mois puisqu'il a eu des dissensions avec la direction du groupe Atos.
Alors vous dites grande carrière, en même temps il est très jeune, il est relativement jeune pour ce poste, 53 ans, il connaît bien Gilles Pélisson ainsi qu'Olivier Roussa qui est le directeur général du groupe Bouygues. Depuis quand le groupe TF1 et Rodolphe Belmer se parlent-ils ?
Alors ça fait déjà quelques semaines, il y avait déjà un plan B qui était prévu si la fusion ne se faisait pas, puisqu'on savait déjà que Gilles Pélisson, si la fusion TF1-M6 se faisait, ne serait pas le patron de l'ensemble, puisque c'était Nicolas de Tavernos, patron de M6, qui était prévu. Mmh. Donc il y avait un plan B quand même prévu, surtout depuis la fin juillet. À la fin juillet, l'autorité de concurrence a fait savoir qu'elle était a priori pas favorable à cette fusion. Donc du côté de chez Bouygues et de chez TF1, on s'est mis à la recherche d'un plan B. Et donc, ces derniers jours, ça s'est accéléré, évidemment, puisque la fusion a capoté il y a une dizaine de jours. Les fusions, et donc, certains noms commençaient à circuler. Nous, on était déjà journalistes médias à la recherche de qui allait être le prochain patron, puisque beaucoup de noms circulaient.
Pourquoi il fallait un nouveau patron, Gilles Pélisson, le poste, l'actuel PDG, n'était plus l'homme de la situation, ou c'est lui qui ne voulait plus ?
Non, il n'était plus l'homme de la situation à partir du moment où, il y a une quinzaine de mois, Martin Bouygues, actionnaire de TF1, a dit... ce ne sera pas toi le patron de TF1 M6 dans un an. Donc à partir du moment où il était désavoué de la sorte, alors on lui a proposé un poste, et il va avoir ce poste au sein du groupe Bouygues de directeur des médias et en charge du développement aussi, mais il était évident que Martin Bouygues avait dit « il me faut un autre manager pour TF1 ».
Concrètement, comment va se passer l'arrivée de Rodolphe Belmer à TF1 ? J'ai le calendrier, mais vous pouvez le raconter. Ça va se faire en deux étapes.
Exactement. D'abord, Rodolphe Belmer doit prendre ses fonctions à la fin du mois d'octobre.
Le 27 octobre.
Au poste de directeur général. Il va avoir quelques semaines où va y avoir une sorte de passage de témoin, un passage de relais entre Gilles Pélisson et Rodolphe Belmer jusqu'à début février prochain. Où il va être nommé président directeur général. Et à ce moment-là, Gilles Pélisson va monter au sein du groupe Bouygues en charge du développement des médias.
Je vais donner les dates exactes. Il va se passer 3 mois et demi entre les deux événements. Il deviendra Rodolphe Belmer, PDG de TF1, le 13 février 2023 précisément. C'est ce qu'on appelle le tuilage. Quels sont les chantiers de Rodolphe Belmer, nouveau PDG ?
Alors, ce qui est clair, c'est que la première mission de Rodolphe Belmer, c'est remobiliser les troupes. On a un groupe...
Elles étaient démobilisées ?
On a un groupe TF1 qui, pendant 15 mois, a été complètement focalisé sur sa fusion avec M6, qui a dû continuer à tourner, mais qui, finalement, la fusion, le cap stratégique, l'horizon pour tous les salariés de TF1 est en train de s'écrouler, puisque TF1 ne fusionnera pas avec M6. Donc, il faut savoir où va TF1 sans M6 aujourd'hui. Et la question principale, c'est évidemment la question du streaming. On le voit bien aujourd'hui avec la concurrence des plateformes américaines. TF1 est obligé de se réinventer. C'est la fin de la télévision à la papa, la vieille télévision d'autrefois. Il faut faire du streaming et c'est pour ça que Rodolphe Bermer a été choisi. C'est qu'il y a une petite ligne sur son CV importante chez Rodolphe Bermer. Il s'est intéressé très tôt à Netflix. On dit même qu'il a cherché à ce que Canal Plus et Vivendi investissent dans Netflix. Et il est aujourd'hui, depuis 2018, au conseil d'administration de Netflix, donc aux côtés de Reed Hastings, qui est quand même le pape du streaming vidéo.
Ça va même plus loin, puisque Reed Hastings, le patron et le fondateur de Netflix, lui a proposé à Rodolphe Bermer de faire partie du board de Netflix, ce qu'il a refusé.
Oui. Pardon, excusez-moi, je vous ai pas entendu.
Je dis qu'il a refusé de faire partie du board de Netflix, mais ça prouve sa connaissance du dossier. Quand le patron de Netflix vous propose de faire partie du conseil d'administration, c'est qu'on n'est pas n'importe qui et qu'on a du savoir.
Voilà, exactement. Et il a notamment aussi du savoir au niveau de, je vous parlais de l'opérateur satellite Eutelsat, qui est un opérateur qui quand même retransmet des centaines de chaînes dans le monde. Et le satellite, la bataille du satellite, on le voit bien avec les batailles TF1 CanalSat, est très importante.
Attention, Olivier Bertelli, juste un mot, on va raconter. Je ne sais pas où vous êtes, mais le son a un petit peu changé. On dirait que vous êtes dans la rue, comme vous étiez passé par le hall de votre immeuble. Attention au son, que l'on ne vous perde, surtout pas. Contrairement à Patrick Lelay, à Gilles Pélisson, à Nonce Paolini, les trois précédents PDG de TF1, Rodolphe Bermer ne vient pas du Sérail. Il n'est ni de TF1, ni du groupe Bouygues. Qu'est-ce que ça change, si tant est que cela change quelque chose ?
Alors, et ce qui est très intéressant, c'est que quand même, Rodolphe Bermer, il est très associé avec Canal+, et donc il a passé des années à Canal+, et il a travaillé finalement avec beaucoup de personnes et de dirigeants de Canal+, qui sont aujourd'hui à TF1. Je pense à Ara Aprikian, directeur des programmes, qui était à Canal+, avant.
Thierry Tulier.
Voilà, Thierry Turier à l'information également. Et donc toute l'équipe, notamment une certaine équipe de journalistes, et notamment évidemment l'émission Quotidien, qui était l'ancien petit journal sur Canal+, qui est passé sur TMC, chaîne du groupe TF1, avec Yann Barthès à la présentation et Laurent Bon à la production.
Le producteur. Donc, attendez. Et dans l'esprit reconstitution de Ligue dissoute, on peut ajouter à cette liste Alain Chabat, qui vient d'annoncer qu'il allait assurer un late show quotidien sur TF1.
Exactement. C'est comme si aujourd'hui TF1 avait un peu quand même changé d'esprit et c'est ce que me disait un bon observateur des médias, c'est un peu l'esprit canal qui s'insuffle et qui arrive un peu au niveau de TF1. Alors, c'est la reformation de la Ligue dissoute.
Ironie de l'histoire, le premier dossier de Rodolphe Bermer sera de rétablir la diffusion par le groupe Canal+, des chaînes TF1. Or, le groupe Canal+, est dirigé par Maxime Sada, surplombé par Vincent Bolloré. Or, Rodolphe Bermer était directeur général, vous l'avez dit, c'est-à-dire numéro 2 du groupe Canal+, de 2003 à 2015. Quand Vincent Bolloré en a pris le contrôle, il a été écarté en même temps que Bertrand Méheux. Comment ça va se passer, les réunions entre eux ?
Ça s'annonce assez rigolo et assez tendu, ces retrouvailles, puisque, comme vous le dites, en 2015, Vincent Bolloré prend le contrôle de Canal+. Rodolphe Bermer pense qu'il va rester. Non, il est éjecté et c'est son numéro 2 à lui, Maxime Sada, donc, qui hérite de Canal+. Et Dieu sait qu'il a pris beaucoup de galons depuis Maxime Sada. Donc ça risque d'être... ils vont devoir prendre un café assez rapidement, arrondir les angles.
Ils vont peut-être laisser Gilles Pélisson gérer ce dossier pour que Rodolphe Bermer puisse passer à autre chose.
Ça serait l'idéal, vu qu'il y a encore quelques semaines avant sa prise de fonction de Rodolphe Bermer. On n'ose pas imaginer que les abonnés de Canal+ ne vont pas avoir TF1 et les chaînes du groupe TF1 pendant un mois encore, même si c'est vrai que la justice, pour l'instant, a dit que Canal+ n'était pas dans son tort. Donc ça va vraiment être une histoire de négociation de patron à patron, puisque chacun s'arc-boute sur ses principes.
Hier, la journaliste Hélène Devin, qui était l'invitée de l'émission C'est Politique sur France 5, Hélène Devin publie un livre dans lequel elle raconte avoir subi un viol de la part de PPDA à l'époque où elle travaillait avec lui à TF1, le titre du livre Impunité. Hier, elle était donc sur le plateau de France 5 et elle s'interrogeait, c'est pourquoi je voulais qu'on entende cet extrait, au sujet de TF1, on l'écoute.
TF1 change de patron, ils ont annoncé ça le jour de la sortie de ce livre. Ce qui peut être une coïncidence, ce qui peut être... Et ils ont fait des communiqués, etc. Pas une allusion à cette histoire. Comme si on n'existait pas. Comme si on n'avait pas parlé, comme si ce livre n'existait pas, comme si il n'y avait pas de problème. Et en fait, c'est très violent de voir ça pour nous, parce que c'est comme si on comptait moins qu'une ligne comptable.
Réaction, est-ce que vous pensez que cette nomination est en rapport avec l'affaire PPDA, comme si du passé, on voulait faire table rase ?
Non, 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 je pense qu'elle n'est elle est pas liée du tout à ça, puisque Gilles Pélesson avait fait un certain geste pour montrer qu'il se préoccupait pour les violences envers les femmes. On se rappelle d'un reportage dans le 7-8 l'année dernière. Mais c'est vrai que c'est ce que dénonce Hélène Devinck dans son livre. Hein. Elle dénonce un système TF1, une autre époque où on laissait PPDA dans son bureau, les portes fermées. Et donc c'est la fin d'un moment, mais Gilles Pélesson n'était pas du tout patron à cette époque. Donc je pense que vraiment le changement de patron était prévu de longue date et avant la sortie de ce livre.
Merci beaucoup Olivier Hubertallier. Quelque chose me dit en tant que journaliste média au Point qu'on risque de vous réentendre encore pour parler du rachat de M6. 1,2 milliard, l'offre de Courbis, Rodolphe Saadé, Marc Ladret de La Charrière, vous confirmez ce chiffre ?
Oui, oui, tout à fait. Et puis, ça peut encore monter. Hein. Il y a des candidats très, très motivés. On pense à Courbis Saadé et Niel Berlusconi. Et ne jamais oublier notre milliardaire tchèque Daniel Stretinsky.
Merci beaucoup, Olivier Hubertallier. À très bientôt dans Culture Média. Nous, on se retrouve dans un instant avec l'écrivain Jean-Christophe Granger. On parle de la saison 4 des Rivières pourpres. Et puis, Bruno Donnet arrive. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Jean-Christophe Granger.
Bonjour.
Romancier, on vous connaît pour vos romans à succès. Le mot est faible, Vol des cigognes, évidemment, L'Empire des loups, Le jour des cendres, où il y a un an, Les promises. Vous êtes traduit dans une trentaine de langues, vendu à près de 10 millions d'exemplaires. Vos romans ont quasiment tous été adaptés au cinéma ou à la télévision. Et vous êtes avec nous aujourd'hui parce que la quatrième saison des Rivières pourpres est sur France 2 en cette rentrée. Ça a démarré lundi dernier. Vous êtes content des audiences ?
Écoutez, moi je ne suis pas un expert, mais la chaîne était très contente. Parce que la concurrence était forte, très très forte.
2 999 500, on va dire 3 millions.
Oui, 3 millions, soyez sympa.
14,5 de part d'audience. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette saison des Rivières pourpres par rapport aux précédentes ? Il faut tout le temps qu'on retrouve ce que les gens connaissent et en même temps qu'on ne retrouve pas ce que les gens connaissent.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est plutôt une espèce de... justement d'expérience, de savoir-faire pour recréer à chaque fois cette ambiance particulière. Brumeuse, campagnarde, ésotérique, et je trouve que maintenant on a vraiment bien le coup de main, et puis quand on voit arriver le commandant Niemans, voilà, ça y est, c'est reparti pour un tour.
Pour se mettre dans l'ambiance, on va entendre un extrait. Pierre Niemans, donc incarné par Olivier Marchal, et le lieutenant Camille Delaunay et Éric Hassinthe sont de nouveau appelés aux quatre coins de la France. On va écouter une scène du premier épisode de cette quatrième saison. Niemans et Delaunay arrivent sur le lieu d'un crime, et c'est le temps des présentations.
Commissaire Niemans.
Oui.
Lieutenant Michael Laclos.
Enchanté.
C'est moi que vous avez eu au téléphone. Je suis l'officier chargé de l'enquête.
D'accord. Mon adjointe, le lieutenant Delaunay.
Ravi de vous accueillir. Pardon pour le retard. Jacques vous attend au poste.
Jacques.
Monsieur Pelletier, c'est le chauffeur du car. Il est sorti de l'hôpital hier, je l'ai convoqué comme vous l'avez demandé.
Parfait, allons-y alors.
Commissaire ?
Oui.
J'aurais préféré faire votre connaissance autrement. Mais je voulais vous dire, je suis très honoré de travailler avec vous. Vous êtes une légende. J'aurais adoré faire partie de votre unité.
Ben maintenant c'est fait. Bienvenue au club.
Ça existe vraiment ? Il existe des policiers célèbres dans la profession, comme il existe des avocats célèbres ?
Je pense. Ce qui n'existe pas, pour être honnête, c'est la brigade à laquelle appartient Niemans, qui est ça, du Granger. Qui est une espèce de brigade qui vient au secours des gendarmes quand il y a une affaire trop bizarre, trop violente, qui frappe dans les campagnes. Bon, ça, c'était le principe de mon roman, c'était le principe du premier film. Mmh. Et c'est intéressant d'entendre cet extrait parce que c'est quasiment les mêmes présentations que Jean Reno dans le film des Rivières pourpres quand il arrive face aux gendarmes. Donc, c'est à chaque fois ce système du flic aguerri, du flic de Paris qui va venir aider les gens du coin.
Et donc, le fait que le flic soit célèbre, vous l'avez inventé ?
Ah oui, parce que alors moi je connais les flics célèbres comme tout le monde, Broussard et tout ça.
Broussard, aujourd'hui, il est plus de ce monde depuis longtemps, et puis il n'était pas célèbre du temps de son activité.
Il est devenu célèbre après la mort, on devient des légendes, mais là ça a toujours été un peu l'idée. Niemans, c'est quand même un flic qui est en fin de carrière et donc qui a eu le temps de résoudre des affaires connues et qui est devenu, oui, comme dit le gendarme, là, une légende. Mais vous savez, il faut toujours relativiser tout ça parce que, comment dire, si vous mettez bout à bout toutes les enquêtes que mènent les héros de télévision, vous avez de quoi remplir 70 carrières de flic.
On est d'accord.
Parce que c'est complètement aberrant d'avoir un flic qui mène autant d'enquêtes de meurtre aussi compliquées, aussi incroyables.
Et qui les résout toutes.
Bien sûr.
Et qui se plante jamais.
En un épisode.
En 52 minutes. Jamais en 51, jamais en 53. Toujours en 52 minutes. On entend les corbeaux, à moins que ce soit des choucas, donc on comprend qu'on n'est pas à Paris. Vous l'avez dit, chaque histoire nouvelle débute de la même façon. Les enquêteurs de Paris vont aider les gendarmes dans des coins plutôt isolés. Qu'est-ce que ça raconte des relations Paris-province? On n'a plus le droit de dire province-région.
Alors vous savez, ça aussi c'est légendaire, la rivalité entre les policiers et les gendarmes. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est vraiment deux entités très distinctes. Donc c'est là où la fiction joue. Je pense pas que dans la réalité, on puisse imaginer des flics, des policiers, donc qui aident les gendarmes. C'est soit les gendarmes, soit les policiers. Mais moi j'ai toujours aimé ça et je me souviens, alors il y a maintenant longtemps, il y a 24 ans, quand j'ai écrit Les Rivières Pourpres, j'étais très heureux justement de mettre en scène, et c'était une des premières fois, des gendarmes avec leur blouson bleu, là, avec la rayure blanche.
Avec l'estafette Renault.
Voilà, et je trouvais ça très exotique.
Elle n'est pas du tout télégénique, cette estafette Renault.
Non,
et
mais
donc, c'était une des premières fois où on la voyait.
C'est devenu, et après Mathieu Kassovitz, dans le film, on a fait vraiment une sorte de l'armée des ombres là, qui monte la montagne, et j'étais très heureux de voir un souffle épique chez les gendarmes.
Tout autre décor, on va se retrouver dans un milieu d'artistes, de génies maudits, au milieu de toiles et de peintures de sang. Écoutez.
Camille,
qu'est-ce que tu fais là?
C'est de l'anima obscura.
Ça là?
Oui, c'est exact, mademoiselle. L'anima obscura, l'âme noire. C'est un courant esthétique qui est né ici, il y a 20 ans, porté par des artistes qui sont revenus au figuratif pour raconter, alors non pas le corps humain, mais ce qui se cache à l'intérieur.
L'âme. Parce qu'elle peut avoir de plus obscur.
L'anima obscura, ça existait ou vous l'avez inventé, comme l'arte povera en Italie?
Alors, il faut que je vous signale que depuis la deuxième saison, j'écris pas toutes les soirées.
D'accord.
Donc, par exemple, celle-ci, je l'ai pas écrite.
Vous la supervisez?
Je la supervise à la fin, c'est-à-dire que je vois ce qui a été fait. Mais on a la chance, et les producteurs, il faut que vous sachiez aussi que le producteur est mon fils. Donc c'est quand même une histoire de famille.
Ouais.
Et il a trouvé des scénaristes qui, comment dirais-je, ont su se mettre dans mes pantoufles et inventer des histoires façon Granger, avec toujours un fond d'ésotérisme et ce genre de choses un petit peu mystérieuses et qui frappent à la campagne. C'est ça qui est important.
Ça fait deux fois que vous parlez de vous à la troisième personne en citant votre nom Granger. Vous pensez être devenu une marque? Ce qui en est, puisque si vous dites que votre fils est le producteur, ça commence à devenir une marque, comme Peugeot est une marque, en même temps qu'un nom de famille.
J'espère que je ne parais pas prétentieux. Oui, mais.
Non, c'est pas le sens de ma question.
C'est parce que.
Non, mais vous dites, je fais du Granger.
Je fais du Granger, et entre guillemets, j'ai été le premier à faire ce genre de. On a appelé ça des thrillers à l'époque. Et puis maintenant, il y a pas mal d'auteurs français qui se sont mis dans ce sillage. Hein.
Vous voulez dire qu'il y a pas mal d'auteurs français qui font du Granger?
Ils essayent. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque où j'ai commencé d'écrire des thrillers, c'est-à-dire des polars avec une histoire très forte, si vous voulez, et en lâchant un peu le côté social, j'étais dans une atmosphère autour de moi de néo-polar, qui était très social.
Christophe, Jean-Christophe Granger avec nous. On continue de parler des Rivières Pourpres et du polar en France et dans le monde. Culture Média continue sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Toujours en compagnie de Jean-Christophe Granger, on parle de cette saison 4 des Rivières Pourpres diffusée en ce moment, c'est le lundi sur France 2. Mais tout d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous observez ici les mécaniques médiatiques. Et hier soir, vous étiez très intéressé par une question soulevée par la journaliste Hélène Devin, qui était l'invitée de l'émission C'est Politique sur France 5.
Oui, Hélène Devin, que vous le savez, hein, Philippe, c'est l'une des nombreuses femmes qui accusent Patrick Poivre d'Arvor de l'avoir violée. Elle vient de faire paraître un livre dans lequel elle raconte sa douloureuse histoire. Et elle était donc hier soir l'invitée de France 5. Et j'ai effectivement été très intéressé par une question que lui a posée l'une des journalistes de l'émission, Salomé Saquet, qui l'a interrogée à propos du fameux principe de présomption d'innocence.
Vous dites, ce principe nous sera renvoyé à la figure jusqu'à l'écœurement, déformé, boursouflé, obèse, vide de son sens. Et est-ce que vous avez la sensation que ce principe, finalement, aujourd'hui, il sert à faire taire les femmes?
Alors c'est l'un des thèmes qu'Hélène Devin qu'aborde dans son ouvrage. Et voici donc ce qu'elle pense de ce principe et de l'utilisation qui en est faite dans les médias.
Bah, il est utilisé à tort et à travers. C'est-à-dire, juridiquement, il a un sens. Il est utilisé dans le discours commun. comme quelque chose de... comme si on ne pouvait pas parler.
Elle estime que c'est une précaution oratoire qui décrédibilise la parole des victimes et au présentateur de l'émission Thomas Snegaroff qui l'a accueilli avec ces mots.
Vous parlez de votre agresseur selon vous, il y a toujours la présomption d'innocence, je suis obligé de prendre ses pincettes.
Hélène Devinck a donc fait remarquer ses pincettes oratoires et la portée qu'elle pouvait avoir.
C'est pervers parce que même vous, Thomas, vous l'avez fait, vous êtes obligé par le code de procédure pénale, c'est-à-dire que notre parole est encadrée. À chaque fois qu'on parle, il faut dire attention, présomption d'innocence, donc peut-être c'est une menteuse.
Alors c'est une passionnante question, et si elle intéresse à ce point Hélène Devinck, c'est parce qu'un épisode cathodique lui est resté en travers de la gorge. L'invitation de Patrick Poivre d'Arvor sur le plateau de l'émission Quotidien.
Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Tout ceci uniquement de l'anonymat, toujours de l'anonymat. Jamais une personne qui ose venir les yeux dans les yeux me dire mais non, là, c'était pas bien, etc.
Aux yeux de la journaliste, c'est parce que l'émission s'est abritée derrière la présomption d'innocence que PPDA, qu'elle s'est autorisée à lui donner la parole.
Il y en a une qui a parlé et l'homme qu'elle accusait
On l'a vu tout à l'heure, oui.
Table ouverte dans une émission quotidien pour dire qu'elle était folle, qu'elle était menteuse, qu'il était pur, qu'il était innocent, qu'on lui aurait donné le bon Dieu sans confession.
D'après Hélène Devinck, donc, le rappel systématique dans les médias de la présomption d'innocence nuit au respect des victimes et à la manifestation de la vérité. Alors, je n'ai pas l'intention, Philippe, de trancher ici cet épineux débat. Néanmoins, et parce que vous savez combien j'aime les télescopages, j'ai été très frappé d'entendre hier soir, dans la même émission, sur France 5, Jean-Michel Apathy se désoler du traitement journalistique de l'affaire Quatennens cette fois.
Mais vous savez, personne ne parle rien. De même, le Parisien publie une interview de Yael Bompivet, qui est, si je ne me trompe pas, présidente de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas une question sur Quatennens.
Bon, alors ça m'a beaucoup intéressé, car je ne sais pas si Jean-Michel Apathy s'est trompé, ou si le Parisien aujourd'hui en France a modifié son papier depuis hier, mais toujours est-il que dans le journal d'aujourd'hui, celui que j'ai là sous les yeux, la question sur Adrien Quatennens, c'est la toute première qui est posée à la présidente de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, ce fut également le cas jeudi dernier sur l'antenne de France Info, où son interview a commencé avec ces mots.
Bonjour Yael Bompivet.
Bonjour.
La NUP est secouée depuis plusieurs jours par les affaires Quatennens et Bayou. Quelle doit être la règle aujourd'hui pour les députés soupçonnés de violences sexuelles?
Voilà, et ce qui est saisissant, c'est la réponse de Yael Braun-Pivet, car elle a beaucoup insisté sur un terme, suspicion.
Vous savez, moi je suis une juriste, nous sommes là sur des cas de suspicion, il y a une main courante, il y a une enquête qui est ouverte, et donc moi je considère que la justice doit faire son travail.
Oui. Suspicion, alors qu'Adrien Quatennens n'est pas soupçonné, mais qu'il a bel et bien avoué publiquement avoir giflé sa femme, où l'on comprend, Philippe, que la fameuse présomption d'innocence pointée par Hélène Devinck est devenue une sorte de réflexe pavlovien très pratique pour refuser parfois d'affronter la vérité.
Merci beaucoup Bruno Donnet. Retour avec Jean-Christophe Granger qui signe ou qui surplombe ou qui entoure ces Rivières Pourpres, la nouvelle saison, la quatrième, qui a démarré lundi dernier sur France 2. C'est quoi votre rôle exactement? Vous avez écrit certains épisodes, vous avez corrigé les autres, comment ça se passe?
Et selon mon inspiration, j'écris une ou deux soirées et puis d'autres scénaristes imaginent des histoires façon Granger. Et en réalité... pour dire vraiment la vérité, je fais confiance aux producteurs qui ensuite supervisent tout ça et qui sont un peu les gardiens du temple.
Vous avez écrit une Bible. J'explique ce qu'est une Bible. C'est quand on dit tel personnage, voici qui étaient ses parents, voici où il habitait, il peut faire ça, il ne peut pas faire ça, il boit tel type de boisson, il ne boit pas ça, il fume tant ou il ne fume pas.
Il y a la une Bible, en fait, elle était naturelle puisqu'elle était dans mon roman et puis ensuite dans le film. Et donc, c'est dans ces pas-là que tous les scénaristes s'engagent.
Vous n'avez pas répondu à mes questions. Est-ce que vous avez écrit une Bible? Est-ce que les scénaristes ont une Bible écrite de votre main? Voici ce que peut faire Nîmes.
Non.
Pas de Bible.
Non, sauf pour la lieutenant, interprétée par Eric Hassinthe, qui était un nouveau personnage. Mais si vous voulez, ma Bible, elle s'imposait d'elle-même parce que j'ai écrit toute la première saison. Bien. Où là, on connaissait le passé des personnages, on savait... on connaissait leur personnalité et donc à partir de là encore une fois les scénaristes ont suivi le destin de ces personnages.
Alors justement, comme dans toute bonne série policière réussie, il faut que les flics aient des traits de caractère forts, tranchés, comme Olivier Marchal qui incarne l'immense flic qui n'a pas sa langue dans sa poche. On écoute un extrait.
La nuit dernière, votre camarade Mathias Vidal a disparu. Le gardien l'a vu pénétrer dans l'internat et depuis plus de nouvelles. Quelqu'un est au courant?
Vous avez checké les chiottes? Parce que souvent, c'est là-bas qu'on trouve en train de flotter dans l'eau.
T'es un petit marrant, toi. Il y a un mec de ta classe qui est en danger de mort. Donc, sauf si c'est pour aider ta grande gueule, on va s'en passer, d'accord?
Lorsque vous écrivez les dialogues de la série, vous pensez à un comédien, à Marshall, Olivier Marshall, à sa façon de parler. Comment ça se passe?
Eh bien, justement, alors, Olivier, au fil des saisons, il s'est vraiment, il a endossé ce rôle et maintenant il insuffle du Marshall. Niémans, maintenant, c'est 50% Granger, 50% Marshall. Et donc, ce genre de réplique, souvent, ça vient de lui-même, si vous voulez. Il est, comment dire, il est assez inspiré. Quand il mène l'enquête, oui, c'est Olivier qui mène l'enquête.
C'est-à-dire qu'il y a un texte, et puis voilà. Après, il peut en faire un autre, un peu comme Corinne Maziero dans Capitaine Marlowe, sans vouloir comparer les deux,
exactement.
Les deux manières de travailler.
Quand,
mais
quand la personnalité est très forte, et quand, comme Olivier, il a lui-même été policier, il connaît vraiment la musique, on peut lui laisser, évidemment, toute latitude pour improviser.
Olivier Marshall a été policier, mais vous, Jean-Christophe Granger, vous avez été journaliste. En quoi est-ce que ça vous nourrit, ça vous aide pour écrire des enquêtes policières?
Ah, j'ai toujours, surtout dans mes romans, le soin du détail, le soin de l'information qui peut passer au fil de l'enquête. Et ce que je dis toujours, c'est que mes lecteurs prennent toutes ces informations que je glisse dans mes livres avec vraiment grande force, parce que la lecture d'un thriller est une lecture très attentive. Vous êtes sous tension, c'est haletant. Et donc, tout ce qu'ils peuvent apprendre dans mes livres sur... à l'occasion de digressions ou de détours, c'est quelque chose qui les marque en profondeur. Et souvent, on me remercie d'avoir justement décrit tel ou tel univers.
Puisque vous parlez du temps long de la lecture, c'est épais un thriller, ça ne se règle pas en 120 pages. Ils font combien les vôtres habituellement?
Oh, c'est de pire en pire, là maintenant je suis dans le 700, le 800.
Parce que vous pensez qu'il faut développer autant de choses, ou est-ce que plus aucun, ça arrive beaucoup quand les auteurs vendent beaucoup et deviennent des stars, plus aucun éditeur n'ose lui dire coupe ça, coupe ça, coupe ça?
Ah, peut-être qu'on n'ose plus me rien me dire, ça ouais. Je ne sais pas. Non,
est-ce que vous avez un éditeur qui vous coupe, qui coupe des passages du texte?
Non, qui me corrige, qui me note des répétitions, des maladresses de style et des choses comme ça. Mais sur la structure, non, on ne touche plus tellement mes livres. Ce que je veux dire simplement, c'est que je m'oriente un peu vers le polar, entre guillemets, historique, en tout cas à des époques différentes de la nôtre. Et alors, ça implique un souffle, un décor, une description un petit peu de l'époque qui prend des pages. C'est pour ça que mes livres sont plus gros maintenant.
On va raconter ce que vous faites en ce moment et le prochain roman qui va sortir sur lequel vous travaillez. Mais d'abord, je vais rester aux Rivières pour, puisqu'on parlait de ce temps long. C'est une série de 8 fois 52 minutes, 4 histoires de 2 épisodes chaque lundi. Pourquoi ne pas avoir fait une longue enquête qui soit la même et justement qui court sur un long souffle?
Alors,
parce que
moi,
c'est un choix de production,
oui,
évidemment.
Oui, moi, par goût, je préfère les histoires comme ça, par soirée.
C'est conçu, c'est conçu.
Je trouve que les séries, d'ailleurs, j'en regarde plus, sont assommantes de longueur. Et avant, je défendais ça. J'ai défendu à une époque Nip Tuck, qui était pour moi du Tolstoï, mais à Miami. Et maintenant, je m'aperçois que je regoute le plaisir d'avoir un film en une heure et demie compact, qui raconte vraiment une histoire.
Parce que c'est trop chronophage. Vous y êtes
trop chronophage.
Ou est-ce que la qualité des séries a baissé?
Et moi, je trouve que la qualité des séries a baissé, oui, grandement. Mais c'est normal, parce que la multiplication des séries est complètement étourdissante. On a des séries partout. Et je trouve que quand elle raconte une histoire sur plein d'épisodes, c'est un peu long, c'est un peu répétitif, c'est un peu mou.
Comment faites-vous pour vous démarquer? Puisque si vous regardez beaucoup de séries ou il y a beaucoup de films, vous vous dites « ça, je ne peux pas le faire, ça, je ne peux pas le faire, ça, je ne peux pas le faire, ça, je ne vais pas le faire ». Qu'est-ce qui vous reste? Comment on se démarque?
Je vous réponds simplement, il reste mon imagination. Moi, je m'accroche plutôt à ce que j'ai envie d'exprimer, à l'univers que j'ai dans la tête. Et Les Rivières pourpres, c'est un bon exemple. Il y a une espèce d'univers qui est à chaque fois, qui revient à chaque fois. Et ce qui me fait très plaisir, c'est qu'on a tendance à penser maintenant que les gens aiment que les feel-good movies, les feel-good séries. Eh bien, avec Les Rivières pourpres, on ne peut pas dire que c'est du feel-good. Eh bien, les gens sont contents, ils y retournent.
On va recevoir dans quelques instants Bertrand Huskla, le fondateur de Brood, qui est dans un film Jumeaux mais pas trop, qui dit justement « Je n'en peux plus de cette bienveillance à tout craint et tout doit être feel-good ». Vous partagez
absolument,
ce même avis.
Absolument.
Sur quoi travaillez-vous en ce moment? Parce que justement, vous parliez d'histoire. Racontez sur quoi vous travaillez. Le prochain Granger, ce sera quoi?
Là, je finis un livre qui se passe à la fin des années 60. Donc en mai 68, puis un peu plus tard, où l'enquête traverse l'univers des hippies, qui est un univers que j'adore, que je n'ai pas vraiment connu parce que je suis trop jeune. Mais
vous aviez quel âge en 68?
J'avais 7 ans,
je pense.
Ah oui,
donc vous n'étiez pas encore en pâte d'aise, vous ne fumiez pas de pétard.
Mais j'ai connu cette époque, si vous voulez, la fin de la comète, où on était encore un peu hippie, un peu baba, mais l'âge d'or était terminé. Et ça fait très longtemps que je voulais écrire un livre sur cette époque et aussi sur l'Inde, qui est un pays que j'adore, que je connais bien.
Mais ça a été un polar.
Bien sûr, c'est une enquête policière à travers cet univers et qui met en scène, si vous voulez, les religions indiennes qui sont très compliquées.
Merci beaucoup Jean-Christophe Granger. Je rappelle les deux prochains épisodes des Rivières Pourpres avec Olivier Marchal et Erika Sainte. C'est ce soir à 21h sur France 2. Merci d'avoir été avec nous en direct.
Merci beaucoup.
Dans Culture Média sur Europe 1, l'émission qui continue évidemment. Il va y avoir les infos de 10h et j'en parlais, nos invités, les comédiens Ahmed Silla et Bertrand Huskla à l'affiche de cette comédie Jumeaux mais pas trop, film dans lequel ils apprennent qu'ils sont jumeaux alors qu'ils n'ont pas la même couleur de peau. Oui, ça peut arriver. Et puis dans les indispensables, Stéphanie Loire va nous parler du chanteur belge Tamino qui mélange les influences rock, pop et orientales. Et puis Jean Z nous parle d'un doc qui retrace l'incroyable histoire de petits actionnaires qui ont fait trembler Wall Street. Jean-Luc Lemoine arrive aussi pour sa session de rattrapage. Quel programme ? À tout de suite sur Europe 1.